questions, commentaires. C'est la libre antenne BTLV.
Boule lumineuse dans l'Ain, cas de vie antérieure, observation d'OVNI dans les Landes et dans le Pas-de-Calais, photo d'un fantôme, c'est l'affiche de cette nouvelle libre antenne, 1h30, consacrée à vos expériences aux frontières du mystère et de l'inexpliqué. Un rendez-vous salutaire pour tous ceux qui ont vécu des choses dites paranormales. On est en direct sur tous les réseaux sociaux, ceux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Bellanca.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle libre antenne. Il est si difficile d'assumer les expériences singulières quand on les vit, des expériences paranormales compliquées à évoquer, merci, dans sa sphère rapprochée. Voilà pourquoi je vous invite à vous libérer de ce poids au 01 86 22 21 20 ou alors vous nous écrivez par mail à redaction@btlv.fr @btlv.fr. Avec moi, l'homme des zones paranormales, Jocelyn Efkeller. Salut mon Jocelyn.
Salut Bob.
Ça va bien?
Oui, très bien.
Bon, ravi de t'accueillir après une soirée hier que tu as dû trouver paranormale, OM-PSG et 0-0.
Ouais, bah, un peu décevant. Voilà,
un peu décevant. Avec moi, le fils spirituel de François Démier. On se demande même si ce n'est pas que le fils de François Démier. C'est Tom Hanan, salut.
Bonsoir, je connais très très bien mon père.
Ah, oui.
Et mon père me connaît très bien.
Alors attention, sur le papa, on a toujours un doute. Sur la maman, c'est sûr.
Oui, regardez le visage de mon père et vous n'avez pas de doute.
D'accord, c'est vrai?
C'est vrai.
Tu montreras une photo alors.
Bien sûr.
Bon, tout va bien?
Oui, tout va bien.
Bon, on est ravis. Tu es en direct avec, bien sûr, tous ceux qui vont commenter ce soir l'actualité de cette nouvelle libre antenne, tous ces témoignages. Vous allez pouvoir réagir à tout ce qui va être dit ici. Et puis, on rappelle que vous pouvez partager cette émission sur les réseaux sociaux. C'est l'occasion pour vous de faire connaître BTLV à votre communauté. Zone paranormale, le bouquin, on en a parlé déjà. C'est celui qui est en ce moment en plein dans l'actualité, puisque pour Halloween, vous pouvez le commander à prix réduit et on vous offre en plus les frais de port qui font souvent exploser le tarif. Donc, et puis on rappelle aussi que Jocelyn sera le 30. Hein.
Exactement. Voilà, si vous voulez une dédicace, eh ben, il faut venir le 30 à Reims, à la librairie
Rogier-Play.
Exactement. Si vous êtes de Reims ou de la région, vous devez connaître.
Exactement.
Et de toute façon, l'adresse est sur mon compte Facebook.
Et puis, bien sûr, sur BTLV.
J'y serai une grande partie de la journée, du matin de 10h jusqu'à 17 ou 18h. Et il est prévu un temps d'échange, de discussion sur le paranormal dans l'après-midi.
Ah, génial. Voilà. Donc, rendez-vous est pris, j'en suis persuadé. Le programme de la semaine, voilà ce qui vous attend avant de retrouver Gilles dans quelques instants. Après la libre antenne, OVNI, le crash de Chagarbourg. C'est un nouveau cas avec Paola Garrigeau. Ça s'est passé dans vraiment le nord du Canada. Et c'était assez incroyable ce qui est arrivé. C'est un peu le Roswell québécois. Mardi, une DRH devenue ambassadrice des entités supérieures avec Sophie Gage-Mété. C'est une soirée qui sera présentée par Sandrine Chopin. Mercredi, spécial Halloween, bien sûr, nous serons à quelques jours à peine de la Coupe du Monde de BTLV, hein, qui est Halloween. Des histoires pour frissonner de plaisir. L'an passé, c'était Jocelyn Efkeller qui était notre invité vedette. Et bien cette fois-ci, c'est Valérie Lombard qui sort un bouquin des histoires à pas lire la nuit. Et ou le soir, oui, c'est oui. Ça, le soir. Et c'est toi qui as fait la préface, d'ailleurs,
oui,
mon Jocelyn. Donc
exactement.
Voilà. Donc on est en famille.
Je recommande la lecture de ce livre où il y a plein de petites anecdotes et d'histoires vécues. Hein, alors vécues soit par Valérie, soit par des amis, des connaissances. Et elle a un peu compilé tout ça dans son livre. Et c'est assez. C'est très sympa à lire.
Bon, mercredi toujours. Regardez après les affranchis de l'info, puisque nous serons en direct. Il y aura Anna Caranta et Claude Delarose qui seront mes invités pour Extraterrestre, dialogue avec les veilleurs. Alors Claude Delarose est ingénieur en physique et Anna Caranta est médium. Et en fait, Anna Caranta aurait canalisé des informations et lui, en tant qu'ingénieur en physique, a posé des questions sur l'univers, etc. Et les réponses qu'il a eues sont assez étonnantes. Donc voilà, c'était l'occasion pour Claude de valider finalement les infos de Anna Caranta qu'elle capte. Jeudi, alors ça c'est toi, Jocelyn Efkeller, un petit dossier.
Il n'y en a que pour moi.
Mais bien sûr, la méduse de
de Petrozavodsk.
Voilà, moi je ne me risque pas, c'est un peu compliqué. Et puis vendredi, la revue de presse du mystère, sans oublier qu'on aura la malédiction du pullover rouge. C'est une histoire qui avait défrayé l'actualité judiciaire dans les années 70. Eh bien, Mathias Leboeuf a reçu Aurélie Joly qui a fait une enquête sur cette malédiction du pullover rouge et l'assassinat d'un enfant. Donc on en saura plus donc vendredi. Voilà pour programme de la semaine. Gilles est au 01 86 22 21 20. Il est avec nous. Bonsoir Gilles, je suis ravi de vous accueillir. Gilles, bonsoir. J'ai pas Gilles, merci. Gilles est avec nous.
Eh oui.
Dites-moi, oui, bonsoir Gilles, ravi de vous accueillir. Gilles, vous nous appelez d'où ?
De Ambérion-Buget, dans l'Ain.
D'accord. Ravi de vous savoir avec nous sur BTLV pour évoquer, bien évidemment, ce que vous avez vécu. Et visiblement, vous avez vu des boules lumineuses, c'est ça ?
C'est ça, voilà, tout à fait. Alors, à plusieurs reprises, en plus. En fait, depuis 2 ans, j'ai vu tellement de choses que c'est dingue. Pendant 50 ans, j'ai jamais rien vu de ma vie.
Ouais.
Et là, moi, je suis lyonnais à la base. Je me suis installé dans l'Ain, ça fait 2 ans.
Oui.
Et là, c'est des phénomènes comme ça la nuit, des choses totalement hallucinantes. Mais en même temps, ça ne me fait pas du tout peur. Hein. Je suis ravi que ça m'arrive.
Bah, tant mieux.
Quand on me dit Ambérion, Buget, je pense tout de suite, il y a une centrale nucléaire pas loin.
Oui, on est à 40 km de Bourg-en-Bresse, à peu près.
Ouais. C'est ça.
Donc, effectivement, si je vous ramène à l'émission qu'on a fait la semaine dernière, OVNI et nucléaire, on voit qu'il y a un vrai lien entre ces observations de boules lumineuses, de phénomènes OVNI, au-dessus de ces centrales. Donc, est-ce que vous aviez fait, vous aussi, le rapprochement ?
Alors, je vais vous dire franchement, je connais tous ces débats à propos des centrales et des boules lumineuses, mais là, je me sens plus concerné, moi, par le phénomène.
D'accord, c'est intéressant, mais en même temps, vous n'avez pas tout à fait tort, parce que vous me dites que pendant des années, vous n'avez rien vu, tout d'un coup, ça s'accélère, comme si finalement, eh bien, vous aussi, on vous avez permis de voir quelque chose, et l'expérience se répète souvent. C'est ça qui est assez troublant.
Entre parenthèses, je vais aussi vous dire, j'ai pas mal bu dans ma vie, j'aimais bien boire, on va dire, hein, et ça fait 2 ans que je ne bois plus du tout.
D'accord.
Et donc, je sais pas, depuis cette période, je me sens beaucoup mieux, forcément, parce que j'abusais pas mal. J'étais un bringueur, j'étais pas un gars, c'est pas un pilier de comptoir, mais j'étais un gars qui aimait bien faire la fête. Quoi.
D'accord,
voilà.
Ouais.
Et dans votre région, il y a un vin qui s'appelle le Cerdon, c'est ça ?
Oui, je connais ce vin, le Cerdon, oui.
Et alors, on va parler de...
C'est juste pour parler, j'adore parler de vin.
Mais bien évidemment, et d'ailleurs tu aimes mieux en boire aussi, puisque tu en apportes assez souvent ici. Mais dites-moi, donc, et vous, ça coïncide finalement avec le fait que vous soyez calmé dans votre folie festive.
Oui.
Et ça coïncide avec cette période-là, le fait que vous voyez. Ouais.
Alors moi, j'ai emménagé en février 2020, hein, juste avant le confinement. Hein,
ouais.
Et... J'ai arrêté de boire à ce moment-là. Et en fait, les phénomènes, parce que j'ai vu des phénomènes l'été 2020 et l'été 2021. Les deux étés, ça a été des phénomènes totalement différents. Hein. Je vais vous raconter ceux de cet été-là. Hein.
Ouais.
Parce que si je commence à vous dire tout ce que j'ai vu, vous allez dire, lui, il ferait mieux de reboire parce qu'il part en tête route, le gars. Non, mais sans déconner, même moi, je suis surpris de tout ce que je... Voilà, bon, bref. Donc, je vais vous raconter le premier phénomène.
Allez-y.
Donc, c'était là, au mois d'août... 1h30 du matin, moi, toutes les nuits, je suis allongé dans mon lit, et puis j'ai ma tablette sur moi, et je regarde la télé, vous voyez. Donc, la télé est allumée, mais le son est éteint.
D'accord.
Et j'étais sur la tablette, et tout d'un coup, mon regard est direction ma fenêtre, il y a une grande maison en face de chez moi, et au niveau de son toit, 10 mètres plus haut, je vois 3 boules apparaître, mais alors elles apparaissent comme ça subitement, comme si elles sortaient d'une espèce de vortex, vous voyez, elles tournoyaient toutes les trois. Alors des boules, mais pas lumineuses dans le sens brillantes, vous voyez. C'était plutôt nuageux, blanc de l'intérieur, vous voyez. C'était une nuit bien noire, hein. Il n'y avait pas de luminaire, la ville d'Ambérieu était éteinte. Vous savez, des fois, la nuit, ils éteignent les...
Ouais.
Bon, et donc, je les observe, et tout de suite, je sens qu'il y a quelque chose vraiment d'extraordinaire qui se passe. Et je les regarde, et elles arrêtent de tournoyer, et elles partent en file indienne... Elles passent devant ma fenêtre. Alors, quand je dis devant ma fenêtre, c'est pas j'ouvre ma fenêtre, je les touche. Elles étaient 15 mètres plus loin. Hein. Et elles passent devant ma fenêtre en file indienne, les trois. Et c'est bizarre, c'est qu'une des trois ralentit plus ou moins, comme si elle m'observait ou qu'elle me disait bonjour. Vous allez dire, il est dingue, lui. Et elles partent. Et moi, je me lève d'un coup et je cours sur mon balcon pour voir où elles sont parties, en définitive, et il n'y avait plus rien. Bon.
Vous savez quoi, ça me rappelle en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de Rencontre du troisième type, je ne sais pas si vous l'avez vu.
Oui, mais il y a longtemps.
À un moment donné, il y a Richard Dreyfus qui voit ces boules dans le ciel qui suivent la route en fait avant de rejoindre finalement là où il y a le gros vaisseau. Et il est avec sa voiture, il a un passage à niveau et voit ces boules passer comme ça lumineuses. Et on a la sensation que c'était un train lumineux.
Oui.
Et c'était un peu ça que vous avez vu. Et ce qui est d'autant plus intéressant chez vous, c'est ce côté laiteux. Parce que ça revient aussi, c'est jamais éblouissant. Un peu laiteux. Et c'est ça que vous avez vu, en fait.
C'était, nuageux. Elles étaient, alors je veux dire, elles, c'était des boules, mais un petit peu légèrement ovoïdes, hein, mais pas. C'était, voilà, elles étaient vraiment, c'était plus, on aurait dit un petit nuage éclairé de l'intérieur, voilà.
Et gros, la grosseur, parce qu'on n'a pas parlé de la grosseur.
On va dire, ça faisait 20-25 cm de diamètre, quoi. Hein.
C'est dingue, ça. C'est dingue, ce phénomène, il est totalement fou, parce qu'il y a des gens qui voient des trucs monstrueux, qui font des stades entiers, ouais. Et d'autres qui voient des toutes petites choses, quoi. Donc on a la sensation
et,
que...
Le fait que j'étais sur ma tablette, j'étais pas du tout à regarder ce qui se passait par ma fenêtre, puisqu'il y a rien, il fait nuit, c'est noir. Mais au moment où elles sont apparues, j'ai été comme attiré tout de suite. C'est comme si elles m'appelaient quelque part, vous voyez. C'était instinctif, mon regard est allé directement sur elles, quoi.
Et est-ce que c'était silencieux aussi?
Ah, ça faisait pas un bruit, rien. Rien du tout. Hein. Je continue, je vous dis ce qui m'est arrivé.
Ah bah oui, on est pendu à vos lèvres.
Ouais. Donc, disons, 3 nuits plus tard, je m'endors, et je me réveille d'un coup. Mais alors, le réveil, je vous explique, hein, moi, je ne travaille plus maintenant, je suis en invalidité. J'ai subi 7 interventions chirurgicales, tout ça, donc les anesthésies générales, je connais. Hein.
D'accord.
J'étais dans un état totalement... Pour ouvrir mes yeux, là, c'était difficile. Mais en ouvrant mes yeux légèrement, tout d'un coup, je vois une sphère similaire aux 3 que j'avais vues 3 jours auparavant, et pratiquement au niveau de ma fenêtre, et elle part. Et là, quand même, j'étais vraiment étonné. Je vous dis franchement, j'avais l'impression qu'elle sortait de chez moi.
Et là, c'était le matin, là?
Ah non, c'était la nuit, pareil.
Ah, d'accord, vous êtes réveillé pendant la nuit, en fait, c'est ça?
En pleine nuit, comme
d'accord,
ça.
Okay.
Mais complètement anesthésié, j'étais dans un état, c'était bizarre d'ailleurs, je me réveille jamais comme ça, je veux dire. Et cette boule était pratiquement comme si elle partait de ma chambre, quoi, et elle a disparu dans le ciel.
Donc vous pensez qu'il y a une vraie incidence entre l'apparition de ces boules et votre état un peu comateux, quoi, en fait, c'est ça?
Ça, j'en suis presque... Disons déjà le fait d'avoir les 3 premières que j'avais vues 3 jours auparavant, le fait que je m'endorme, j'en vois une qui disparaît comme ça en partant pratiquement de chez moi, je me sens concerné par ce phénomène. Vraiment, je sens que c'était, on voulait, je sais pas, peut-être que je délire, j'en sais rien, hein, mais j'ai l'impression que c'était un message, parce que moi je peux vous en raconter des histoires, hein, sur 2 ans, hein, des trucs de dingue. Hein.
Bon, on aura l'occasion de se retrouver peut-être tout au long de la saison pour évoquer tout cela. Il y a Denis sur YouTube qui dit il y a la centrale nucléaire d'Ambérieu en Bugey, c'est sûr, mais il y a aussi l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, par exemple, qui est pas loin.
Oui, c'est vrai.
Donc il faut demander l'angle, l'heure et la direction. Alors, est-ce que vous vous rappelez de tout cela à peu près?
Ah bah l'heure, c'était... pour les 3 premières, c'était 1h30 du matin. Je me rappelle bien, parce que j'ai regardé l'heure après, c'était 1h30 du matin.
Alors déjà, les avions, 1h30 du matin, c'est rare qu'ils volent. Hein, quand
ah non,
même.
Mais c'était pas des avions. Puis, je vous dis, elles sont passées devant ma fenêtre, à 15 mètres devant ma fenêtre. Hein, elles étaient au niveau du... Moi, je suis au 2e étage, par rapport au sol, elles étaient, on va dire, 8-9 mètres au-dessus du sol. Hein.
Oui, alors, et en plus, ce qui est intéressant ce soir-là, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas la pollution lumineuse des réverbères, puisqu'ils étaient éteints par la ville.
Oui, donc, voilà.
Et en plus, s'ils avaient été rallumés en pleine nuit, vous n'auriez pas vu partir. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne part pas. Donc,
non, mais de toute manière, ce n'était pas des avions. C'était pas... Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment quelque chose. Je vous dis, par rapport à la grosse maison qui est à côté de chez moi, 10 mètres au-dessus, elles sont apparues. Et elles sont sorties en tournoyant. Et ensuite, elles sont parties en file indienne. C'était vraiment... ça n'a rien à voir avec des avions. Ça, c'est clair et net. Hein.
Surtout, ce qui est étonnant, c'est quand vous nous expliquez qu'une de ces boules-là s'est un peu arrêtée, en fait.
Non, pas arrêtée, mais elle a ralenti.
Vraiment.
Mais tout ça, ça se passe très vite. C'est après qu'on analyse toutes ces choses. Hein. Sur le coup, j'ai dit, mais elle est... Inconsciemment, je dis, mais elle me regarde, elle me dit bonjour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a ralenti plus ou moins et hop, elles sont reparties, les 3 en même temps, elles ont continué leur route, quoi. Mais c'était hallucinant. Et je vous dis, donc 3 jours après, je m'endors, je me réveille complètement comateux, je vois cette boule qui part pratiquement de chez moi. Hein, et donc, 3 jours plus tard, pareil, je m'endors, je me réveille. J'ouvre les yeux et encore une fois, je vois une boule qui part comme ça et qui traverse le ciel et qui disparaît.
Donc deux fois après un sommeil, on va dire, un peu comateux, comme vous dites.
Mais la troisième fois, je me suis réveillé normalement, j'ai envie de dire. Mais par contre, mon regard, il était tout de suite au niveau de la fenêtre.
Et donc, vous avez eu la sensation que finalement, ces boules, elles venaient pour vous, c'est-à-dire qu'elles vous observaient, en fait.
Honnêtement, moi je le vois comme ça, c'est bête ce que je vous dis, hein, mais c'est ce que j'ai ressenti. Hein. C'est comme ça que je le ressens.
Mais c'est un point commun de nombreuses histoires d'ufologie.
C'est la torpeur là, c'est ce sommeil comateux qui m'intéresse parce que souvent dans les témoignages, il y a soit des gens, enfin quand les gens voient des ovnis depuis chez eux, ils sont en train de dormir, effectivement, il y a toujours ce côté, soit je me suis endormi, j'ai rien vu, mais j'ai dormi plus que d'habitude, hein, c'est le cas d'Aravilliers par exemple. Je me réveille et je me sens pas bien, soit il y a des missing time, c'est-à-dire qu'en fait j'ai l'impression que je suis réveillé mais je suis pas réveillé, ou quand je me réveille c'est pas la bonne heure, etc. Enfin voilà, il y a des distorsions un peu comme ça, temporelles et de sensations, comme si l'OVNI en s'approchant exerçait une sorte d'emprise.
Oui, et puis il faisait le vide, quoi. Bulle temporelle, bulle sonore, bulle de tout, quoi.
Tout imaginer.
Ouais. Donc c'est une affaire assez incroyable que celle que vous avez vécue, parce que elle ramène à bon nombre de témoins et de témoignages qui disent la même chose. Cette récurrence, c'est ça qui me laisse penser qu'il y a une réalité du phénomène absolue, parce qu'en fait, plein de gens vivent la même chose, quoi. Donc, c'est absolument dingue. En tout cas, merci, Gilles, d'être venu nous parler de ça ce soir. Alors, j'ai bien compris que, visiblement, il vous arrive beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on aura peut-être l'occasion de se reparler sur l'antenne de BTLV. Bien sûr, c'est la libre antenne.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
N'hésitez pas à témoigner, parce que sans vous, cette émission n'existerait pas. Et oui, vous pouvez le faire en toute quiétude si vous voulez, bien sûr, être en tout anonymat. On change votre nom, votre prénom, la ville où vous habitez, et vous pouvez le faire tranquillement. Donc, et puis surtout, vous allégez de ce poids, je le dis, qu'on a souvent sur l'estomac quand on vit quelque chose d'étrange, de singulier. On n'ose pas en parler à son entourage. Ici, vous pouvez le faire en toute quiétude. Donc, tout est à votre disposition. Mon Tom. Alors, il y a du monde, hein, déjà.
Oui, il y a beaucoup de monde. Et puis, il y a toujours les plus fidèles. On dit bonjour à Véronique Latreille, on dit bonjour à Aneb, à Mallory Crépieux. Enfin, voilà, il y a Ricky Palmer sur Twitch. De plus en plus de monde sur Twitch. Hein.
Ah, mais...
Non, et voilà, c'est une plateforme qu'on avait essayé à la rentrée. Et ça marche bien sur Twitch, évidemment aussi sur YouTube. Denis, Vince Rice. Donc, bonsoir à tous. En ce qui concerne les réactions par rapport au témoignage de Gilles, Céline avait témoigné il y a quelques mois pour parler d'une vidéo qu'elle avait prise en 2015, d'une boule en métallique qui avançait en plein jour. C'était à Paris 12.
Je m'en souviens.
La semaine dernière, il y a eu un témoignage similaire dans le 12e arrondissement aussi. Donc c'est un phénomène a priori fréquent et avec beaucoup de témoins. Donc,
en si même jamais, temps, le 12e est à la mode en ce moment. Donc peut-être que on sait jamais.
J'y vais demain pour parler paranormal.
Ah ben voilà.
Dans le 12e. Justement, tu vois, Olivier Delforge qui dit de toute façon ces observations sont de plus en plus fréquentes.
C'est vrai.
On se demande, il se demande, et ces militaires ou véritables phénomènes expliqués? Ah, la question reste entière. Et
Petites boules comme ça, militaires, les trucs qui seraient qui arrivent devant un truc qui pas. Ce qui est étonnant, c'est finalement le côté polymorphe du phénomène. C'est-à-dire qu'en fait, il prend toutes les formes qu'il veut, il fait ce qu'il veut, et on ne sait pas si c'est des entités, des esprits, des consciences, des extraterrestres,
juste des machines.
Ou des machines. En fait, on ne sait rien du tout. Et on est face à des trucs observés par beaucoup de monde.
D'ailleurs, là, il y a le chef de la NASA qui a parlé à ce sujet-là.
Et il veut absolument les étudier. Hein, ça y
oui,
est.
Parce que ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'il n'exclut aucune piste, mais il dit quand même... C'est pas rassurant si ce sont des technologies terrestres. On a limite l'impression qu'il veut nous dire vaut mieux pour nous que ce soit des aliens, quoi.
Ben, vaut mieux. Presque. Assez...
Dans les deux cas.
Alors, après, on se souvient, je crois que c'était je crois que c'est Jacques Bergier qui avait dit ça. J'avais lu quelque part qui disait rares sont les pays qui testent leurs âmes secrètes dans les pays ennemis ou voisins. Voilà. C'est donc voilà. Donc ça laisse aussi, ça fait réfléchir. C'est-à-dire que t'es russe, t'as une arme secrète, tu vas pas la tester aux États-Unis.
Tu sais, quand il y avait les ovnis en Belgique, on disait que c'était des armes secrètes, des avions secrets américains. Mais bon, je sais bien que les Américains ont des bases en Europe. Hein,
Mais tu testes pas.
Tu commences d'abord par tester des trucs ultra
chez toi. Ben voilà, c'est ça. Donc c'est toujours un peu étonnant. Bon, dans un instant, c'est Laurent. On va parler de cas de vie antérieure. On aura également Sébastien Raoult, rédacteur en chef adjoint de OVNI. OVNI Science et Histoire qui viendra nous présenter un nouveau numéro dont on est partenaire. Waïd, lui, il a vu des ovnis dans les Landes. Et puis, on aura également un ovni dans le Pas-de-Calais. Et puis, la photo d'un fantôme si Thomas est avec nous ce soir. Alors, on est à quelques jours d'Halloween. Je vous en parlais. Jocelyn F. Keller est en pleine lumière.
À l'occasion d'Halloween et jusqu'au 31 octobre seulement, le livre de Jocelyn F. Keller, Zone paranormale, est à prix réduit et les frais de port sont offerts. N'attendez plus pour plonger dans les zones paranormales de Jocelyn F. Keller. Partez à la découverte de 18 histoires incroyables qui vous feront frissonner de plaisir. Dans la collection BTLV Mystères et Inexpliqués aux éditions Max Milo. Pour en profiter, rendez-vous sur btlv.fr ou via le lien dans le chat.
Voilà, c'est l'occasion peut-être de vous offrir cet ouvrage incroyable qui est un succès et j'en suis ravi, celui de Jocelyn F. Keller qui vous plonge à chaque fois. J'ai eu plein de retours quand on a commencé à communiquer sur cette opération. Il y a plein de gens qui disaient « achetez-le, je l'ai lu, c'est super sympa, on se plonge dans un truc ». Gentil. Donc voilà, c'est un bel ouvrage et c'est le premier qui a été signé dans la collection Mystères Expliqués chez Max Milo, celle de BTLV. À propos d'Halloween, je vais en parler plusieurs fois. Regardez ce qui vous attend mercredi soir. On va, je crois que tu as le visuel de l'émission. L'émission sera bien sûr l'occasion pour vous de frissonner de plaisir. Voilà, avec Valérie Lombard et toute l'équipe de la rédaction qui s'est mobilisée pour vous raconter des histoires un peu flippantes.
Viens déguisé. Donc,
tu viens déguisé, toi ?
Toi aussi.
Viens. Ah non, mais moi, je ne viens pas déguisé. Je suis déjà déguisé naturellement. Ah,
je
donc voilà.
Je sais avec
toi, tu viendras déguisé ?
Je ne sais pas.
Moi aussi. Ah bah non, mais attends, tu ne peux pas lancer le truc sans venir déguisé.
Moi, je t'ai demandé.
Moi, j'emmènerais peut-être une citrouille, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Mais déjà, j'ai la tête d'une citrouille. Donc alors, ce sera l'occasion, dans tous les cas, toi, tu pourras venir déguisé. Mesdames et messieurs, Laurent est avec nous, 01 86 22 21 20. Il voulait évoquer des cas de vie antérieure. Bonsoir Laurent.
Oui, bonsoir.
Ravi de vous accueillir. Laurent, vous êtes où, en France ou quelque part à l'étranger ?
Alors non, je suis à Toulon, dans le Var.
Magnifique, vous avez bien de la chance. J'imagine qu'il fait beau ?
Il fait super beau.
Je vous déteste, voilà, comme d'habitude. Donc voilà, donc comme d'habitude, je vous déteste. Mais bon, je vais à Aix-en-Provence le week-end prochain. Donc vous voyez, je pense que j'aurai un peu de beau temps aussi. Alors dites-moi, du côté de Toulon, vous avez vécu quelque chose. En fait, je crois qu'on vous a rapporté des cas de vie antérieure. Expliquez-moi tout.
Alors, déjà, je présente mon métier. Hein. Je suis avant tout, hypnothérapeute spécialisé en hypnose ericksonienne. Ouais. Et puis, je pratique aussi l'hypnose régressive avec l'exploration, effectivement, de vie antérieure. Ouais. Et puis, j'ai eu un cas au mois d'août. J'ai deux femmes qui m'ont appelé et qui me parlent de quelque chose de complètement dingue, qui me disent, nous avons fait le premier et deuxième degré de Reiki. Et puis depuis, nous avons des flashs, chacune de notre côté, des flashs d'une vie antérieure au 19e siècle, en 1800 et quelques. Mmh. C'est que ce délire. Et, voilà, et elles me parlent un petit peu de tout ça, comme quoi il y a beaucoup de choses qui sont revenues à leur mémoire. Vraiment, elles revivent même certaines scènes. Et puis elles me disent, on aimerait pouvoir faire une séance d'hypnose régressive pour savoir comment cette vie-là, au 19e siècle, s'est terminée.
D'accord.
Ça me paraissait comme déjà assez dingue. J'ai jamais entendu parler de deux personnes qui, en fait, avaient les mêmes souvenirs. Mm-hmm. C'est ça qui était déjà de base quand même complètement fou. C'est qu'elles avaient exactement les mêmes souvenirs. Chacune se voyait dans les flashs de l'autre. D'accord. Et donnait des détails à l'autre. On prend rendez-vous au mois d'août, on discute pendant une heure et demie. Donc je les accueille toutes les deux dans mon cabinet de Toulon. Et puis, l'une s'en va et je fais la séance d'hypnose régressive à celle qui restait dans mon cabinet. Et là, on arrive à aller justement à l'objectif prévu qui était d'aller vers la fin de cette vie-là, donc vers sa mort, on va dire. Mmh. Et elle me décrit quelque chose, une scène où elle se voit, elle voit sa cousine, puisqu'en fait, son amie au 21e siècle aujourd'hui, et dans cette vie antérieure, et sa cousine. Et elle me dit qu'elle voit sa cousine allongée par terre, elle pense qu'elle est évanouie, et après, pour elle, c'est le noir. En fait, elle meurt. On ne sait pas comment, j'arrive pas à avoir plus d'informations, mais donc voilà, on voit la scène de fin, de sa fin à elle.
D'accord.
Ensuite, on appelle son ami arrive, la première personne s'en va, elle se croise mais elle ne se parle pas, je fais en sorte d'ailleurs justement qu'elle ne communique pas, parce que c'était quand même assez important. On fait la séance avec la deuxième personne, et là, je l'amène pareil vers sa fin de vie, vers le moment tragique de sa mort dans cette vie du 19e siècle. Mmh. Et elle me décrit en fait la suite. Et là, même maintenant en parlant, j'ai encore des frissons parce qu'elle me raconte la suite en fait. C'est-à-dire que, en gros, si on devait schématiser, la première personne me raconte la scène à 20h, ouais, avec son point de vue. Et la deuxième femme, en fait, me raconte la même scène, mais à 20h20. Et de son point de vue. Et en fait, là, elle me dit, je suis à terre et je vois ma cousine qui est allongée à côté de moi, décédée. Elle m'a raconté la même scène, en fait. Et c'est... Je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est un cas complètement inédit. À ma connaissance, du moins en France, peut-être que dans d'autres pays, ça existe. Mais en tout cas, tellement extraordinaire que bah, j'en ai fait une interview. Je les ai interviewés.
Oui.
Donc une interview que j'ai mis sur ma chaîne YouTube, puis je vous ai contacté pour vous faire part de ce, ce cas complètement délirant, en fait.
Alors, Besson,
moi j'ai une question. Ces deux femmes, vous en savez un peu plus sur elles? Elles se connaissent
depuis longtemps, elles se sont rencontrées au stage de Reiki, ou elles se connaissent
comment elles se sont rencontrées? Oui, voilà, c'est
alors,
ça.
Elles se connaissent d'après leur métier. Ouais. Je ne peux pas vous dire quel métier elles font, parce qu'en fait, elles veulent rester anonymes en plus. Mmh. Parce que toute cette histoire, tous ces souvenirs de vie passée antérieure qui reviennent, leur famille, leurs enfants, personne n'a connaissance de ça. D'accord. Elles ont voulu en parler à personne, parce qu'au début, elles pensaient qu'elles devenaient dingues. Et non, elles se sont connues dans leur métier, et puis de fil en aiguille, elles se sont liées d'amitié très forte, quoi.
Mmh. Et donc, visiblement, elles étaient cousines avant, c'est ça, vous me disiez ?
Dans cette vie, en 1820, 1830, elles étaient cousines.
D'accord. Ouais. Okay.
Ce qui est dingue, c'est qu'en fait, elles se souviennent de leur nom, de leur prénom, de leur vie. Elles ont, au fur et à mesure, et ça s'accélère, ça continue encore maintenant, des souvenirs qui reviennent. Elles ont même retrouvé l'endroit où elles vivaient. Ça, c'est complètement fou. Mmh. C'est ce que je leur ai expliqué d'ailleurs. Je leur ai dit, mais des souvenirs comme ça d'une vie antérieure en tant qu'adulte, j'ai jamais entendu parler de ça.
Elles ont essayé d'enquêter, parce que moi je me souviens d'une vie antérieure comme ça, avec des points très précis. J'essaie d'enquêter. Elles ont essayé de trouver, c'est ça?
Elles ont enquêté, elles ont retrouvé même donc l'endroit où elles vivaient, elles ont retrouvé des gens dans le cimetière, les noms de personnes qu'elles ont vues dans leur flash. Mmh. C'est-à-dire que régulièrement, elles revoient en fait des souvenirs, des morceaux, des images de ce qu'elles ont vécu au 19e siècle.
Mmh. Et le fait qu'une finalement ait commencé une histoire et l'autre l'ait poursuivie, ça vous a étonné en fait, c'est ça?
Ah ben, c'était sur le nombre de séances d'hypnose régressive que j'ai pu faire, c'est une personne qui me raconte une anecdote. Mmh. Parfois, on peut se poser la question de se dire, tiens, c'est peut-être son imagination. Mmh. On peut imaginer que c'est l'esprit, parce qu'on suggère, mais tout en restant quand même un petit peu à l'écart, mais on suggère un peu d'aller vers tel endroit. Mmh. Mais la personne, après, voilà, il y a toujours le doute de se dire, est-ce que c'est mon imagination, si les émotions sont là. Mais là, ce n'était pas possible.
Je vous coupe deux secondes, parce que le fait qu'elles se connaissent avant, elles ont peut-être inconsciemment, elles se sont peut-être, vous voyez ce que je veux dire,
raconté
une histoire, et puis finalement, dans votre hypnose, cette histoire est remontée, et puis ça aurait pu donner, je ne sais pas, non?
Ouais, c'est possible. Je me suis même, lorsque j'ai eu le deuxième témoignage avec ce souvenir commun, je me suis même dit, mais elles se sont mis d'accord pour me raconter cette histoire. C'est pas possible. J'ai vraiment eu du mal à y croire pendant quelques jours. J'avais un doute.
C'est le premier réflexe qu'on aurait, c'est-à-dire qu'en fait, deux personnes vous racontent une histoire, elles se sont mis en tête une histoire, elles vous racontent, mais pas dans un but de vous tromper, hein, c'est pas ça, c'est juste...
C'est inconscient, quoi.
Parce qu'elles sont convaincues, sans doute, que c'est vrai, que tout ça est vrai, qu'elles ont vraiment vécu ça, elles vous racontent l'histoire et vous... Là, ce qui aurait été très spectaculaire, et là, pour le coup, inexpliqué, c'est deux personnes qui ne se connaissent pas, qui, par exemple, l'une vient le lundi, l'autre le mardi, vous racontent l'histoire, celle du mardi vous raconte la suite. Là, il y aurait effectivement de quoi se poser de grosses questions.
Dans le spectaculaire, il y aurait un degré encore effectivement plus important. Mais disons que déjà, ce type de témoignage, je me suis posé la question, c'est quel est l'intérêt de faire ça, même si c'est effectivement l'inconscient qui parle. Attention, dans une hypnose régressive, on va vraiment chercher au plus profond, comment dire, pas de la mémoire, mais de la mémoire dans l'ADN. Après, il faut y croire. Il faut y croire. Je pense que déjà les personnes qui viennent me voir, elles croient déjà à ce principe de réincarnation. Hein. C'est-à-dire que moi, quelqu'un qui vient me voir en disant je veux faire une hypnose régressive, mais je n'y crois pas, bah, restez chez vous. Enfin, après, il y a effectivement toujours ce doute, mais quel est l'intérêt? Et quel est l'intérêt pour l'inconscient de raconter tout ça?
Alors, l'intérêt pour l'inconscient, ça c'est, on ne le sait pas, mais dans tous les cas, elles, je pense qu'elles n'ont pas forcément, comme vous le disiez, eu envie de vous tromper ou machin. Peut-être que... Alors, attention, on ne sait pas véritablement, on n'a aucune explication. On essaie de trouver des pistes d'explication, tout comme vous. Hein. Mais c'est vrai que j'ai quand même, et vous êtes hypnothérapeute et c'est votre métier, vous savez quand même que on est influencé par notre quotidien, par notre culture dans ces séances d'hypnose régressive. On a fait beaucoup d'émissions ici sur les hypnoses régressives et notamment sur les ovnis. Quand quelqu'un rentre dans une hypnose régressive en disant « je vais aller remonter pour savoir si je n'ai pas été abducté ou si je n'ai pas vu un ovni », déjà, on a mis dans la tête de quelqu'un, il s'est mis déjà dans cette tête, vous voyez ce que je veux dire.
Donc, je suis d'accord.
Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est un superbe outil, ces hypnoses régressives, mais il faut quand même, et j'imagine que vous êtes aussi d'accord avec moi, qu'il faut avoir un peu de recul par rapport à ça. Une hypnose régressive n'est pas la validation totale d'un fait.
On est d'accord. Il faut juste prendre en compte dans ce cas que là, elles sont arrivées avec déjà une sorte de bagage, dans le sens où elles se sont vues toutes les deux dans différentes scènes de cette vie au 19e siècle et surtout, elles ont retrouvé des endroits. Ça ne s'invente pas, ça, de se dire, tiens, on a habité à tel endroit.
Et ça, elles l'ont vérifié
elles sont allées sur place.
Et là, il y avait
personnes. On ne connaît pas ces deux personnes, mais pourquoi ne pas imaginer qu'elles sont médiums, clairvoyantes, et qu'elles ont vu des scènes du passé? Et après, par un phénomène que je ne m'explique pas, elles se sont appropriées ces scènes en disant bah, « c'est nous qui les avons vécues, mais c'est peut-être des choses qu'elles perçoivent et qu'elles vous racontent après. »
Dites-moi, Laurent, le Reiki, là, ça n'a pas ouvert peut-être des perceptions peut-être? Vous avez senti qu'elles étaient intuitives, ces dames?
Alors, il faut savoir que de base, en fait, donc là, même si effectivement elles se sont intéressées au Reiki, de base, elles croyaient pas vraiment à la réincarnation, ces personnes-là. Ça, il faut le dire. Elle croit à l'énergie universelle, parce que c'est cela que l'on travaille avec le Reiki. Et je pense, oui, vous avez raison, c'est tout à fait ça. C'est là, le principe de Reiki a ouvert en fait une porte quelque part.
D'accord.
C'est ce que je me suis dit. Je voyais pas d'autres explications. Ce qui serait intéressant, c'est que en fait, d'autres personnes vivent la même chose et qui n'osent pas en parler. Parce qu'il y a de ça. Là, ces personnes-là souhaitent rester anonymes. Que ce soit leur nom de famille, que ce soit leur profession et même la vie de leur famille.
Ouais, c'est-à-dire que ce qui valide peut-être la véracité de cette hypnose, c'est qu'elles n'aient pas envie d'en tirer profit. En fait, c'est ça.
C'est exactement ça. C'était juste de la curiosité parce que quelque chose qui s'est ouvert à elles et le pire, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, donc en fait, ça avance et elles ont de plus en plus de souvenirs. Et qu'elles n'inventent pas, parce que encore une fois, elles retrouvent les lieux et les noms de personnes qu'elles ont vues dans leur flash de vie au 19e siècle.
Vous avez fait combien de séances avec elles?
J'ai fait une séance avec l'une et une séance avec l'autre.
D'accord.
Alors, il faut savoir qu'une séance dure environ une heure et demie. Mais donc là, c'était juste vraiment... un passage qui était pour moi en fait une sorte de preuve que la réincarnation existe. Quand je dis preuve, attention, entre guillemets, c'est une preuve pour moi, pas une preuve pour le monde scientifique, c'est pas une preuve pour certaines personnes qui n'y croient pas. Mais pour ma part, c'était tellement extraordinaire. Et puis aussi, c'est ce que, juste, je terminerai là-dessus, je leur ai expliqué que ces souvenirs comme ça de vie antérieure qui apparaissent, ça n'arrive pas chez les adultes. Et je peux vous affirmer que si vous me trouvez un cas, et même un cas où il y a deux personnes qui ont les mêmes souvenirs comme ça de vie antérieure, et qui retrouvent comme ça les lieux, ça n'arrive pas, c'est chez les enfants.
C'est souvent chez les enfants, effectivement.
Chez les enfants.
Mais on a la sensation même que les enfants, quand ils se construisent, ils ont encore un peu le disque enregistré de leur vie d'avant, et puis après ça se ferme petit à petit.
Exactement. Bon.
Bah écoutez, en tout cas, c'était une belle histoire. Je ne sais pas ce que vous avez décidé de... Elles veulent continuer, essayer d'explorer tout cela, ou ça s'arrête là pour elles, Laurent?
L'exploration continue pour elles, parce que les flashs continuent.
D'accord, ok. Bon, ça a quand même ouvert un canal, quoi. Ça a quand même ouvert un canal chez elles.
Ça a ouvert quelque chose d'assez extraordinaire. Ouais. Elles comptent m'en parler prochainement. On va se revoir. Peut-être que je referai une interview avec elles, effectivement, prochainement.
N'hésitez pas à nous tenir au courant, hein, c'était intéressant.
Oui.
Si on peut suivre le dossier justement et voir au fur et à mesure des mois et des semaines ce que ça engendre. On sera toujours là pour vous écouter.
Est-ce que vous me permettez de donner l'adresse de mon site internet où les gens peuvent aller sur ma chaîne YouTube? Alors, je précise, ce n'est pas une chaîne YouTube monétisée, hein,
vous
n'avez pas d'argent.
Vous demandez dans le chat, de toute façon.
Hein. Allez-y.
Voilà, c'est juste pour aller voir. Donc c'est sur mon site internet, donc hypno-relax.com. Voilà, hypno-relax.com, et il y a un lien en fait sur la première page en bas à droite vers ma chaîne YouTube.
D'accord.
Et vous pouvez accéder à l'interview. La qualité du son est pas top, mais voilà.
Bon.
C'est quand même
c'est bien de le faire aussi et de le proposer, donc vous avez bien fait de le signaler. Merci Laurent d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle soirée, prenez soin de vous.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
Ah, comme tous les lundis, où que vous soyez dans le monde, vous êtes nombreux et nombreuses à regarder cette libre antenne, parce qu'effectivement, on y entend des témoignages absolument incroyables. Rares sont les émissions en France qui vous proposent une telle liberté d'expression, dans tous les cas sur le mystère et l'inexpliqué. Tom.
Allez, on va dire bonjour à quelques utilisateurs qui nous regardent en direct sur Twitch. J'adore parler de Twitch parce que les pseudos me font rire. Il y a Vétéran 160, il y a Ruby Cléo, Ricky Palmer, toujours 1961, qui a une histoire à raconter par rapport au témoignage qu'on vient d'écouter. Il nous raconte le Reiki, c'est puissant. J'ai eu l'occasion de dormir chez des amis qui font cette pratique dans le Vaucluse. Et en rentrant à Nice, j'avais une pêche d'un jeune de 20 ans. Donc on imagine qu'il n'a pas cet âge-là. Qu'avons-nous d'autre comme témoignage? Il y a Ornella Bass Player. J'ai fait de l'hypnose régressive, mais j'avais une vie, semble-t-il, pas sur la Terre. C'était ailleurs, mais pas ici. Et une vie où j'étais musicienne pour les enfants. Et aujourd'hui, dans cette vie, eh bien, je suis musicienne. Il y a Myriam Pirotte qui est un peu plus sceptique face à tout cela. Elle nous explique « Je ne pense pas que c'est bon de voir nos vies antérieures. Ça peut nous perturber à la fin. »
Ah ouais ?
Effectivement, c'est assez troublant quand même.
Ah bah, moi, je ne sais pas, finalement...
T'étais qui avant d'être Bob ?
J'ai déjà du mal à être Bob aujourd'hui, alors imaginez savoir qui j'étais hier. Certes, c'est troublant. Il y a des choses troublantes quand on parle de vie antérieure. Il y a des gamins, effectivement, qui relatent des choses. On a eu sur le plateau ici un ancien pilote de haut gradé de l'armée française qui est venu témoigner à visage caché. On comprend pourquoi. Nous disant qu'il avait même rencontré le mécano de la personne dont il pensait être la réincarnation. Cette rencontre a été si particulière qu'il y avait de l'émotion absolue. Tout ça sous l'œil de Pascal Lafargue qui menait l'enquête. Il a retrouvé un de ses vieux dessins quand il était enfant relatait son crash d'avion. Enfin, il y a des choses qui sont assez troublantes effectivement en termes de vie antérieure, mais dans tous les cas on sera toujours là pour en parler. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder l'émission de Pascal Lafargue hein, sur les pas de Mathilde Toscane, puisque pour la première fois elle parle d'elle et elle a plein de gens qui l'ont suivi dans son enquête. C'est absolument fou. À propos d'expérience, justement, je voudrais vous rappeler qu'il y a une émission rare,
sur un média français, c'est des expérienceurs parlent en termes d'abduction. Souvent, vous allez sur toutes les chaînes de télévision, on parle et on a les témoignages de gens qui viennent notamment des États-Unis. Eh bien, cette fois-ci, ce sont des Français qui parlent. Regardez.
Je me rappelle m'être levé, enfin, être soulevé du lit.
En lévitation.
En lévitation. Et puis, avancer vers la fenêtre fermée. Et puis, un blackout, rien, et me réveiller sur une table froide avec ces deux petits êtres et un autre être au pied de mon... à mes pieds.
Plus grand.
Plus grand. Je voyais que le contour. Mm-hmm. J'arrive pas à définir comment il était. Et il avait dans la main quelque chose défilé en métal, de long. Et là, j'ai eu très mal.
Ça a été bref, mais douloureux, c'est ça?
Voilà, bref, mais douloureux. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, je suis enceinte.
À ce moment-là, j'ai vu une sorte d'objet, vraiment la caricature, sauf qu'elle avait un côté un peu hologramme, mais...
C'était un triangle, une
triangle? Non, une soucoupe. Et puis c'est comme ça que je me suis ramené des années en arrière à des expériences dans la petite enfance, avec cette tête que j'avais vue à travers la fenêtre. Dans les 3 ans, 4 ans qu'ont suivi cette observation de cet ovni, il y a eu énormément de nuits de cauchemar, et puis il y a eu à nouveau des expériences particulières.
J'étais dans ma chambre allongée, je vois cet être avec des grands yeux en amande noire, mais entouré d'un grand nuage, un espèce de nuage orangé, doré, que je ne m'expliquais pas à l'époque. Il s'est approché vers moi et il m'a pris la main et j'ai ressenti un espèce de courant électrique. À partir de ce moment-là, il y a eu un blackout, je ne me souviens plus de rien, mais vraiment plus rien du tout.
Abduction des expérienceurs parle avec Isabelle de Cochecau et 4 témoins absolument incroyables, 5 témoins d'ailleurs sur le plateau ce jour-là, et vous allez voir, leurs histoires sont folles, et c'est surtout la sincérité qu'on a dans ces témoignages qui est toujours assez touchante. Vous voulez la regarder cette émission, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre sur BTLV, vous avez la possibilité de le faire à plusieurs tarifs. Et puis tiens, on rappelle que... je voulais juste aussi signaler, il y a plein de gens qui me disent mais on peut pas se désabonner de BTLV parce qu'il y a la tacite reconduction. Vous avez des abonnements sans engagement, c'est marqué ici. Regardez, allez-y. Et il est normal que labo sans engagement soit plus onéreux que labo avec engagement, puisque on fait un pas, vous faites le vôtre également. Mais il y a toutes les possibilités d'abonnement à BTLV. D'ailleurs, on rappelle que pendant quelques jours encore, vous vous abonnez à BTLV, on vous offre un documentaire, celui de David Gallet, Da Vinci Code, les véritables mystères. On évoque sans transition aucune l'actu du web avec une apparition dite mariale. Alors ça, moi, j'aime beaucoup. Maintenant, on les voit un peu partout, ces apparitions mariales. Vous allez voir, c'est un journaliste brésilien. On sait les Brésiliens croyants. Et qui filme des amis à lui en train de faire du vélo avant de les rejoindre lui aussi sur son vélo. Eh bien, il va voir, puisqu'on a vu, vous allez voir une voiture en face. Regardez ce qui apparaît à gauche en orange. Voilà ce qu'il voit lui quand il a vu bien sûr la vidéo chez lui. Il s'est dit Notre-Dame m'est apparue. Voilà le profil de Notre-Dame. C'est lui, il le pense. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'il a montré ça à sa mère qui, en le voyant, en regardant la vidéo, a dit elle aussi « Oh, Notre-Dame est dans les images ». Alors, ça peut être un effet de lumière.
L'idée de faire un zoom et de ralenti.
Non, c'est après ça qu'il a fait.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, à vitesse réelle, tu la vois
Non, mais justement, c'est après, en regardant les images qu'il a vues, il s'est dit...
Oui, c'est pour ça que je dis, il faut avoir l'idée de...
Ah ouais, donc...
Je filme une vidéo comme ça, est-ce que je vais avoir l'idée de faire un zoom et tu vois... Moi, je le dis juste, hein, tu sais, Ouais.
Là, il voit ça. Oui. Et alors, lui, il s'est posé la question. Et pour lui, elle est apparue, Notre-Dame, parce qu'en fait, il allait vivre, dans les 2 semaines qui ont suivi cette apparition, des drames, puisque sa sœur est morte du Covid. Il est tombé, lui aussi, malade du Covid. Il est resté quelques semaines à l'hôpital. Et il dit qu'il n'a jamais senti la mort, qu'il savait de toute façon qu'il allait être sauvé grâce à Notre-Dame qui aurait alerté Jésus de son état et lui aurait demandé de le sauver. Dans tous les cas, depuis ce jour-là, quand il fait du vélo, il a un t-shirt de Notre-Dame sur le dos. Et comme je le dis, que ce soit vrai ou pas, le miracle, c'est qu'il s'en soit sorti. Et ça, c'est tant mieux.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
La presse s'intéresse aux ovnis. Il y a des titres spécialisés. Ovnis, science et histoire. C'est un titre dont on est partenaire. Et on accueille Seb Raoul qui est avec nous. Salut Seb.
Salut Bob, salut tout le monde.
Bon, ravi de t'accueillir sur BTLV pour évoquer un nouveau numéro avec une couverture très sympathique qu'on va voir à l'instant. Et alors, je me suis plongé dans le magazine cet après-midi. Alors, on a un côté très ovni, bien sûr, dans ce numéro, comme à l'accoutumée. Et puis, on parle de mystérieuses mutilations animales. Mais j'ai été étonné parce qu'on parle beaucoup de médecine aussi, beaucoup de d'avancées médicales dans le début du magazine.
Oui, alors juste le magazine, la couverture, c'est celle du numéro 8 ou du numéro 9.
D'accord, mais c'est celle que j'ai envoyée à notre ami. Oui, t'as pas celle de d'aujourd'hui, en fait. Celle que
si vous voulez, je peux vous chercher le...
Non, mais alors, tu peux le montrer, le magazine à l'écran. Voilà, c'est pour ça que j'ai été un peu surpris quand tu as mis cette magazine.
Mais, la couverture est belle quand même. Hein.
Voilà, oui, bien évidemment. Et voilà, quand j'ai lu le PDF que tu m'as envoyé, parce que j'ai reçu le bouquin par PDF, oui, j'ai regardé, il y a beaucoup de choses sur la conscience, les avancées médicales,
ouais,
etc.
En fait, ce qui se passe, c'est que quand on parle d'ufologie et quand on parle d'ovni, les frontières sont quand même largement poreuses entre l'ufologie, la médiumnité, les mondes parallèles, etc. Donc, en soi, c'est tout à fait logique que le magazine parle de ça. Mmh. Et je cite notamment l'article d'Olivier Gabriel, qui, on va dire, qui ressort la quintessence de ces différentes lectures et qui est presque valéiste dans ses propos, c'est-à-dire que pour lui, l'ufologie n'est pas, et les ovnis ne sont pas forcément tôt les boulons, mais sont peut-être reliés à tous les phénomènes de médiumnité, de monde parallèle, de poltergeist, même, pourquoi pas. Donc, effectivement, voilà la
ouais, on l'a retrouvé. Je me disais bien que j'avais envoyé la bonne quand même tout à l'heure. Donc,
j'ai eu peur, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envoyé? Mais non, ça va. Donc voilà, en synthèse, OVNI, on est sur une frontière poreuse entre la médiumnité et tout ce qui a trait aux sciences parallèles, on va dire.
Alors, on lit quoi dans ce nouveau numéro
Alors, on lit notamment dans le dossier central un très bel article sur les pères de l'ufologie, pères de l'ufologie au sens large. Ça va de J. Allen Hynek à, on en parlait tout à l'heure avec ton invité psychothérapeute ou hypnothérapeute plutôt, John Mack. On a aussi toute l'actualité de notre partenaire BTLV, du coup, sur trois pages, qui reprend les différents articles, les différentes émissions du dernier trimestre. Voilà, on a aussi quelque chose de plus historique sur les Foo Fighters et un entretien passionnant aussi avec Loan Miège, qui parle aux esprits et qui permet...
Loan Miège, c'est les esprits de la nature, souvent, c'est ça. C'est les petits êtres, les petits peuples.
Effectivement. Donc là, on continue avec l'éclectisme du magazine. Il y en a pour tous les goûts.
Alors, il y en a pour tous les goûts, effectivement. C'est-à-dire que vous plongez vraiment à bras-le-corps dans cet univers. Moi, ce que je trouve très intéressant, effectivement, c'est de faire ce pont entre tous les sujets, parce que Sébastien, on sait bien que, et tu l'as stipulé tout à l'heure, c'est que les frontières sont minces entre les deux. Et on regarde tout à l'heure, quand on parlait de ces boules qui sont venues voir l'un de nos auditeurs et témoins tout à l'heure, qui viennent à la fenêtre, on ne sait pas ce que c'est. Hein. C'est vraiment la complexité de ce dossier, Seb.
Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de vérité au final. Tout le monde a sa vérité. C'est un petit peu comme il y a 60 millions de sélectionneurs de l'équipe de France. On peut dire qu'il y a 60 millions de théoriciens de l'ufologie. Chacun peut apporter sa vérité. Ouais. C'est là que les débats peuvent être passionnés. Des fois aussi, manque de cordialité, mais ça rend passionnant la chose.
Ouais. Alors, vous parlez aussi d'un mouvement qu'il faut et d'un groupe qui s'est créé, c'est ICER. On avait reçu un de ses représentants ici sur BTLV. Je sais que Jean-Pierre Petit a quitté ce groupe récemment, puisqu'il m'a envoyé un mail. Mais c'est intéressant parce que, en fait, ce sont des acteurs de l'ufologie du monde entier qui se sont regroupés.
Ouais, c'est ça. Et c'est un petit peu à l'image aussi de ce qu'a fait Louis Elizondo au symposium de Saint-Marin. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister, je pense, j'espère, à une internationalisation du phénomène. Il n'est pas le seul à le dire. Hein. Bin Nelson appelle aussi ses confrères internationaux à se pencher sur le sujet. On fait le parallèle avec ce qui s'est passé en 1978, lorsque l'État de Grenade a voulu faire un petit peu à la même manière, a voulu alerter l'ONU sur le phénomène. Alors on espère que c'est pas cyclique et qu'on va pas repartir sur quelque chose de creux pendant 30 ans, mais qu'au contraire, on est sur une belle avancée. Mmh. Je prends l'exemple d'Avi Loeb, de Bill Nelson.
Avi Loeb, il va loin en ce moment.
Personnages.
Hein. Avi Loeb va loin.
Alors Avi Loeb va loin, mais Avi Loeb a un background... Bon, qui en fait pas lire plus d'un, moi le premier, Bill Nelson, c'est pas le premier venu non plus. Donc on est vraiment sur quelque chose, pour moi, de très intéressant, et j'espère que ça va continuer sur cette dynamique.
Bon, ce qui est intéressant avec Avi Loeb, c'est effectivement quand il dit « on aurait peut-être été créé par des entités, une civilisation extraterrestre plus intelligente, etc. », c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, il n'a aucune vérité, mais en tout cas, il s'autorise le questionnement, et ça, ça change tout. Et on a la sensation que depuis quelques temps, et notamment depuis 2017, hein, et depuis la révélation du New York Times, de ces entités, ou de ces objets qui volent, etc., et la validation de ces objets, que la parole se libère un petit peu. On le sent, Seb, ça aussi.
Oui, tout à fait. Alors, la parole se libère au moins outre-Atlantique. Après, je n'ai pas d'exemple, que ce soit en Orient, en Asie ou en Amérique du Sud. Peut-être que ça se libère aussi, mais on est en train d'assister. Et je ne sais pas si on s'en rend vraiment compte ici à quelque chose d'incroyable entre John Brennan, ancien de la CIA, Bill Nelson, Avi Loeb, Marco Rubio, futur peut-être présidentiable du côté républicain, on est en train d'assister à des discours qui ne sont pas, alors excusez-moi l'expression, qui ne sont pas des peintres. Quoi. Au final, on est sur vraiment des très hauts gradés. Mm. Donc oui, on est en train d'assister, je pense, à quelque chose qui ne s'est jamais produit, même si l'ufologie reste cyclique.
Vous parlez aussi dans le magazine de ce rapport qui a été rendu. C'était en juin dernier. On avait fait une grosse émission d'ailleurs sur BTLV. On peut s'attendre à quoi pour la suite? Parce qu'il y a une suite, hein, parce que c'était juste. Il y avait 9 pages, je crois que c'était pas grand chose. Donc on s'attend à quoi?
Alors déjà, on va s'attendre à ce que la loi soit promulguée, parce que si je ne dis pas de bêtises, le Sénat doit encore promulguer pour qu'ensuite l'exécutif prenne la chose en main. Ce qu'on peut en attendre du côté du public, j'ai bien peur que malheureusement, on soit encore obligé de se rattacher aux chercheurs privés type John Greenwald, etc., de The Black Vault, parce que pour moi, les rapports seront peut-être intégrés au niveau du Congrès, au niveau de l'Office du renseignement, mais resteront vraiment sur une élite politique. Alors, à moins qu'il y ait l'un ou l'autre qui fasse du zèle, je pense que le public devra attendre soit par la FOIA, donc Freedom of Information Act, c'est-à-dire de reprendre les documents. Voilà. Je pense que ce qu'il faut en attendre, c'est toujours la même chose, c'est s'informer chacun. Faut pas attendre que ça nous tombe
tout cru,
avec le bec ouvert. Ton émission est là pour ça, notre magazine est là pour ça aussi, pour informer. C'est ce que je dis dans l'édito, modestement.
Merci, Seb, d'être venu nous présenter ce nouveau numéro d'OVNI Science et Histoire. On va remontrer la couverture. Elle est disponible chez tous les bons points de presse, bien sûr, et aussi par abonnement, hein, je crois. Ça, on peut s'abonner à ce magazine?
Tout à fait. Autant que pour BTLV, on peut s'abonner, on peut également s'abonner à la revue et la trouver dans les bonnes papeteries dignes de ce nom.
Et je vous signale d'ailleurs que si vous choisissez l'abonnement Gold, je crois, on vous l'offre. Donc voilà, celui qui est le plus important vous offre des places pour les rencontres du Mystère Expliqué. Et aussi, il fait partie des magazines qu'on vous envoie tous les un mois et demi. Merci en tout cas, Seb, d'avoir été là pour nous raconter et nous vanter les mérites de ce magazine, qui en a d'ailleurs du mérite de parler de ces sujets.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
On va partir dans les Landes dans un instant pour rejoindre Waïd, qui a vu des ovnis là-bas, au-dessus des pins peut-être. Mais dans tous les cas, avant cela, on fait un point sur les réseaux.
Oui, il y a toujours Ayato69 qui nous regarde, de même pour Palomino FLC qui se fidélise, lui, hein, qui commence à être là à chaque direct. Est-ce que tu veux un témoignage, Bob?
Parce que j'en
ai un qui est assez stupéfiant par rapport à la vidéo de la supposée Vierge Marie qu'on aurait vue sur la vidéo. C'est Mallory qui nous raconte ça. Elle a été victime d'un accident de voiture, et d'un accident de voiture assez important. Elle avait un ami qui était assis derrière et qui a pris absolument tout le choc. Et celui qui était côté passager devant a vu quelque chose d'assez surprenant, un petit pendentif de Saint-Christophe qui a jailli du vide-poche et qui s'est retrouvé sur le passager arrière, qui malgré le fait d'avoir pris tout le choc,
a été protégé. D'accord.
Il a juste perdu connaissance, mais il est indemne.
Ce sont de jolis mots et une belle histoire. Et encore une fois, l'important, c'est que la personne soit sortie. Oui. Après, parce que quand tu prends tout le choc comme ça, une voiture, alors après, on peut toujours faire des raccourcis, voir quelque chose. Mais en fait, la croyance, elle est hyper importante pour celui qui y croit. Voilà, donc voilà, si la foi, elle peut apporter cela.
Elle permet d'être heureux.
Et voilà, et de toute façon, ça a été créé pour ça. Hein, donc à un moment donné, voilà, pour que les gens... Je parlais, j'ai fait une émission ce matin, on parlait de la source originelle. En fait, on l'appelle comme on veut, c'est-à-dire que si on pense qu'il y a effectivement une conscience, une entité suprême qui aurait été peut-être à l'origine du grand tout, des humains ont été obligés de l'appeler Dieu et d'en faire des religions pour pouvoir représenter. C'est très dur de dire « je crois quelque chose que je ne vois pas ». Là, l'avantage, c'est que toutes les religions ont des représentations, des prophètes qui prônent le message de ces religions, et ceux qui y croient, eh ben, tant mieux. Moi, je dis toujours... Je trouve ça fantastique de croire en quelque chose parce qu'au moins ça te permet d'avancer, d'avoir un allié, de te dire que je suis aidé, etc.
J'ai remarqué au moins que les personnes qui croyaient en quelque chose ne passaient pas par cette étape que beaucoup peuvent connaître, c'est à savoir une crise existentielle.
Je pense que ce n'est pas une vérité absolue, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont très croyants qui passent par des moments de doute. Et d'ailleurs, il y a plein de mystiques et de prêtres.
Et sans mauvais genou, tu peux avoir une crise de foi aussi.
Oui, exactement.
Non, mais une vraie crise de foi, FOI. C'est-à-dire que tu peux remettre en question ta foi.
Et on a eu plein de prêtres, plein de gens qui se posent.
Et les gens ne le vivent pas toujours très bien.
Exactement. Bon, on revient dans un instant avec Waïd, mais avant cela, sachez-le, quand même, le 20 novembre, on est avec vous.
BTLV vous convie aux rencontres du mystère et de l'inexpliqué, en ligne et en direct.
Parce qu'il disait, si on organise, grâce à ces géographies naturelles, nos bâtiments, nos institutions, avec la signification de ce qui donne le croisement entre le fleuve et le passage du soleil, nous avons une croix céleste et terrestre.
Ce sont des phénomènes inexpliqués et en même temps souvent médiatisés. Mmh. C'est ça qui est intéressant, parce que tu en as d'autres où c'est beaucoup plus compliqué. Tu as des témoins, mais il n'y a pas de preuves, il n'y a rien. Alors que là, souvent, il y a beaucoup de témoins qui voient beaucoup de choses.
L'histoire que je vais vous raconter aurait pu être conçue par Stephen King. Elle contient assez de frissons et de ténèbres pour être, vous savez, un de ces contes cruels qui n'aident pas au sommeil.
Après avoir vu ces lumières de l'endroit où nous chassions, nous avons alors réalisé qu'il s'agissait d'un appareil rond qui avait la forme de deux cuvettes renversées.
Des ordres illuministes, il y en a deux aujourd'hui, qui font parler d'eux, qui se sont répandus dans un certain nombre de pays, 56 pays, hein, où la philosophie est d'un peu faire de tout.
Gros rendez-vous en perspective le 20 novembre. Je serai là en direct, bien sûr, pour vous présenter ces conférenciers qui viendront les uns après les autres bien vous faire plaisir en vous emmenant sur leur terre, tous spécialistes de leur sujet, comme Fernand Schwartz sur les pyramides, Jocelyn Fieler qui est avec nous, qui parlera des disparus de Boscodon, Egon Kragel, Philippe Yenard, Christian Doumerc, Joseph Davidovits, Patrice Marty, les momies de l'étrange, et puis la table ronde féminine le soir. On approche, hein, c'est à 3 semaines là maintenant, ouais. Donc maniez-vous de prendre vos places, il n'y en aura pas pour tout le monde, mesdames, messieurs. On va parler de vie antérieure, de médiumnité, de mémoire cellulaire avec les filles le soir, si on peut me remettre juste le visuel pour que je n'écorche personne et que je n'oublie personne. Pascal Lafargue, Muriel Siron, Florence Hubert, Françoise Nallet, Anne-David Bichot, le tout présenté par Sandrine Chopin. 01 86 22 21 20, vous allez avoir le plaisir d'entendre monsieur Waïd qui est avec nous. Bonsoir Waïd.
Oui, bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe.
Ravi de vous accueillir, Waïd. Vous nous appelez d'où, Waïd ?
Je vous appelle de Morsens, exactement. J'habite entre Mont-de-Marsan et Mimizan.
Voilà. D'accord. Mont-de-Marsan, Mimizan, donc c'est le sud-ouest qui est en force. On a eu Toulon tout à l'heure dans le sud-est, et bien cette fois c'est le sud-ouest. Dites-moi, Waïd, vous avez vu un ovni, donc vous, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui. Il y a peut-être une vingtaine d'années au moins.
Ouais, racontez-moi.
Mes enfants étaient petits.
Ouais.
Et on partait se balader avec mon ex-femme autour du lac d'Arjusan. La ville s'appelle Arjusan, à côté de chez nous. Et on faisait le tour du lac, comme d'habitude. On marchait. Et là, j'ai devancé ma femme avec les enfants d'à peu près 100 mètres. Et arrivé au bout du chemin, sur la gauche, quand on regarde sur la gauche, il y a le lac. Et donc, je me suis arrêté là, je me suis retourné vers ma femme pour regarder, il était à peu près à 100 mètres de moi. Et quand je regardais vers le lac, j'ai vu un objet au-dessus du lac, à peu près une centaine de mètres au-dessus. Et au début, j'ai pensé que c'était un ballon, sonde, parce que j'ai déjà vu des reportages où c'est en aluminium. Je crois, je ne suis pas sûr. Donc, je fixe l'objet et je vois que cet objet est vraiment d'un rond parfait, un disque extraordinaire, et pas une pliure, rien, et il était poli, et tout se reflétait dessus, les nuages, le ciel, ça se reflétait dessus. Donc, j'étais là, non, c'est pas un ballon, ça. Et en le fixant bien, je me suis dit, c'est pas un ballon, c'est un ovni. Donc, je me suis retourné vers ma femme, je lui fais, venez voir, je l'appelle comme ça pour qu'il vienne voir vite, et quand je me retourne, il n'y était plus. Il avait disparu.
C'est toujours comme ça. C'est-à-dire que ça devient, moi, je deviendrais fou. Hein. C'est-à-dire que je deviendrais fou.
C'est quoi, on va appeler ça le syndrome David Vincent.
Vincent, mais c'est-à-dire que c'est ça. Donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il se montre et surtout.
Dès qu'on veut le montrer à quelqu'un d'autre,
voilà,
il pleure.
On a l'impression, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, Wade, c'est qu'il se montre une fois, mais ils ne veulent pas que tout le monde les voit. Ils veulent se cacher, ils ne veulent pas qu'on les voit au grand jour. Enfin, c'est un truc de malade quand même. Donc, la sphère, elle était grosse comment?
À peu près 10 mètres, je dirais.
Ah ouais,
pareil, 10 mètres de diamètre, facile.
Ah ouais.
Il n'était pas dans le sens horizontal, il était dans le sens vertical.
D'accord, donc c'est balèze quand même. Donc ah ouais. Donc
il n'y avait pas un bruit, il n'y avait aucun bruit. Hein. Vraiment, c'était le silence complet.
D'accord. Et alors, 10 mètres, c'est-à-dire qu'il était donc à la verticale et pas à l'horizontale,
oui.
Ça veut dire que quoi? C'est genre un disque, comme on dit, comme une soucoupe, mais à la verticale, en fait, c'est ça?
Oui, oui, mais parfait le disque, hein, parfait.
Et à peu près de la taille d'un hélicoptère, alors, parce que c'est ça?
D'un autobus, d'un camion, mais c'était gros, hein,
ouais.
C'était bien gros. Et quand je l'ai regardé, j'ai senti que c'était pas méchant.
D'accord.
J'ai eu, dans l'esprit, j'ai su que cet objet-là, c'était pas un truc
agressif, c'est
pas,
ça. Ouais.
Pas agressif, ouais. du tout.
Et au-dessus du lac, est-ce que vous avez regardé l'eau? Est-ce que ça vibrait? Est-ce que vous sentiez qu'il y avait un souffle qui faisait quelque chose?
Non, non, rien. C'était rien. C'était le calme complet, le silence. Rien. Pas un bruit. Rien.
Alors, vous avez pensé à quoi, dans un premier temps? C'est extraterrestre
début,
ou c'est un...
Après, oui, après le ballon, oui, j'ai dit c'est un ovni, c'est un ovni, j'en suis convaincu, c'était un ovni, ouais. Il était là, et je me suis dit, peut-être que l'eau les intéresse, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Je me suis dit, l'eau doit les intéresser, peut-être. Pour moi, c'était un ovni, il n'y a pas de doute. Hein.
Est-ce que ça vous a rendu frustré? Parce que quand on voit quelque chose qu'on est seul à voir... Et on sait qu'on l'a vu et qu'on ne peut pas avoir de témoins de ce que l'on a vu. Est-ce que ça vous a frustré?
Oui, un peu. J'aurais aimé que ma femme le voie, les enfants le voient. J'aurais aimé, oui.
Ouais. Et du coup, ça vous a ouvert l'intérêt sur ce phénomène ou vous étiez déjà intéressé par ce phénomène?
Pas du tout, parce que depuis tout petit, j'ai déjà vécu des expériences paranormales. Et là, un ovni, c'est la première fois à peu près que j'en voyais en plein jour comme ça. J'ai vu des lumières dans la nuit, mais je ne sais pas ce que c'est.
Oui, mais alors ça, vous avez dit quelque chose qui me ramène aussi à ce qu'on dit souvent. Un enfant qui vit des choses étranges, inexpliquées, paranormales, souvent est témoin par la suite d'observations d'ovnis. Comme si, pareil, il y avait un lien, voilà, une je sais pas, mais en tout cas, ça arrive souvent, ça, quand même.
Ouais, hein, je pense à un petit truc qui me traverse la tête, peut-être qu'en fait, les ovnis, enfin, voilà, appelons ça comme ça, qui nous identifient les humains, non pas par rapport à ce qu'ils sont, c'est-à-dire homme, femme, ou ton statut social dans la vie, etc., mais par rapport à des
perceptions.
À des perceptions, des ondes, des sensibilités, des choses comme ça. Et en disant, ben, on va s'adresser à tel ou tel... Enfin, on va s'adresser, il s'adresse à personne. On va se montrer à telle ou telle personne, parce que telle ou telle personne est plus
réceptive.
Ouais,
c'est ça.
Ouais. On va dire ça comme ça, que d'autres.
Ouais.
Je ne sais pas. Hein,
mais c'est une bonne explication, en tout cas une bonne proposition.
Ouais, une
bonne proposition.
Petite hypothèse.
Parce qu'en fait, on se dit toujours, mais pourquoi ils ne se montre pas aux gouvernants et que c'est toujours monsieur, madame, tout le monde.
Exactement.
Parce que chez monsieur, madame, tout le monde, il y en a qui sont ouverts, peut-être, effectivement. Chez peut-être. Les gouvernants, il y en a peut-être moins, ou qui sont beaucoup plus... voilà.
Après, ils se montrent aussi parfois à des gens qui sont totalement en dehors du domaine, qui n'y connaissent rien.
Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. C'est quand c'est, voilà, pour le coup, quelqu'un qui ne connaît absolument rien et qui voit aussi, quoi.
On fait remarquer, on fait remarquer dans le chat qui est juste à côté de chez vous, Wahid, il y a un centre d'essais militaires.
Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai déjà vu des lumières. On m'a dit que c'était des missiles qui venaient de Biscarros ou de Cazaux. Mmh. Mais là, non, c'était en plein jour, il faisait beau. L'objet que j'ai vu, c'est pour moi, c'est une soucoupe, il n'y a pas de doute là-dessus.
Ouais, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est en plein jour. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est suffisamment rare pour le souligner. Parce que là, encore une fois, si on veut tester quelque chose de militaire en plein jour, on essaie d'être caché, on ne se met pas comme ça à la vue de tout le monde. Là, c'est en plein jour. Généralement, les observations d'OVNI, c'est la nuit, etc. Là, c'est en plein jour. Et c'est une sphère 10 mètres, mais c'est colossal en plus. Et
vous... Facile. Ouais.
Et quand vous vous êtes retourné, le temps de...
Ah, le temps que j'appelle ma femme, les enfants... Je leur dis, venez vite. Et je me retourne. Il avait disparu totalement, sans bruit, sans rien.
Ah ouais, c'est
comme
ça.
Si, je ne sais pas, il avait traversé quelque chose ou qu'il était devenu invisible totalement. C'est possible aussi.
Ouais. Non, mais c'est un phénomène complètement dingue. Ça apparaît, ça disparaît, ça va vite, ça part fort. Parfois, ça, on ne voit même pas le départ. Enfin, c'est un truc de malade mental. Wahid, en tout cas, merci de nous avoir livré ce témoignage. C'est un joli témoignage parce qu'une sphère de 10 mètres comme ça, en pleine journée, c'est quand même rare. Hein. Mille merci. Et là, dans ce moment-là, on doit se dire, mais pourquoi j'ai pas une caméra? Pourquoi j'ai pas un appareil photo? Pourquoi j'ai pas tout ça? J'imagine que c'est ce qui nous traverse l'esprit, non, Wahid?
Non, c'est pas ça. C'est parce qu'à l'époque, j'avais laissé le téléphone à la maison. Ouais. Je l'avais pas sur moi. Ouais. Non, j'avais une question à vous poser. La vidéo que je vous ai envoyée sur mon frère, vous l'avez vue?
La vidéo que vous nous avez... Alors ça, il faut en parler en dehors de l'antenne, parce que je ne sais pas ce que vous m'avez envoyé comme vidéo.
Parce que c'est extraordinaire.
Ah non, bah écoute, extraordinaire. Alors, je ne sais pas. On a une vidéo pour Wahid. C'est les 6 vidéos que vous nous avez envoyées, d'accord.
Oui.
Et ça, c'est votre frère qui a vu ça, c'est ça?
Oui.
Alors, on va regarder une première vidéo pour savoir ce qu'il en est. Alors, c'est ces deux boules. Alors, moi, je vois deux boules, là, qui sont... Enfin, deux trucs lumineux qui sont dans le ciel.
Il faisait jour.
Voilà.
Et quand ça fusionne, on voit un objet. Quand elle fusionne, vous mettez sur pause et vous voyez un immense objet.
Alors, on va regarder, parce que là, on voit effectivement deux flashs hein, lumineux qui sont... Ah, il y en a un qui bouge à gauche. Hélas, stop, on met sur pause. Où est-ce que vous voyez un objet, vous, alors? Parce que moi, on a mis sur pause.
Oui.
Hein, et alors, je vois...
Quand ils fusionnent...
On a peut-être mis
pause. Vous mettez sur pause, ça s'éteint, ils s'éteignent, objets s'éteignent, et vous allez voir un énorme objet.
On relance un peu. Attendez.
Quand ils sont fusionnés.
Oui.
Ah merde, ça a été trop vite, mais c'est très très dur en direct de s'arrêter au bon endroit, à la régie, mais parce que... Hop. Là, je ne sais pas si c'est un objet. En tout cas, on voit une ligne.
Il y a un objet de côté. Sur l'ordinateur, moi, j'ai vu image par image.
Ouais.
On voit un énorme objet avec plusieurs couleurs, des cases. Il y a des couleurs.
D'accord. Bon, écoute, en tout cas, ça c'est. C'est vrai que là, on voit quelque chose quand même d'assez. On a l'impression qu'il y a un disque là. Donc voilà.
Il y a un disque. Et en plus, le plus extraordinaire, c'est que ces deux boules. Elles ont suivi mon frère avant que la nuit tombe.
Ouais.
Et quand on voit les deux boules, il n'y a rien entre avant que la nuit tombe. Ouais. C'est comme si c'était invisible, le disque, mais on voit les deux boules.
Mais c'est ça
et là, on voit l'objet, là.
C'est ça qui est... Il y a une autre vidéo que vous nous avez envoyée et qu'on va pouvoir regarder.
C'est le même truc.
C'est la même chose, en fait. Hein. Mais là, c'est votre frère qui est en voiture, c'est ça?
Donc, un camion, un semi-remorque qui partait sur Villefeuille-en-Sac.
Voilà, je connais bien en plus. Donc, il est en train de conduire. Donc c'est un
il
peu
s'est arrêté, là, il s'est arrêté. Là, voilà, là quand vous voyez les bulles fusionner, il s'est arrêté.
Voilà,
il a filmé, il est sorti du camion.
Voilà, la classe est assez impressionnant, effectivement.
Il a dit que l'engin, il était monstrueux. Il devait faire, il m'a dit, une taille phénoménale. Hein.
C'est vrai que c'est quand même troublant d'avoir une luminosité comme ça, en plein ciel, en pleine nuit. Alors, c'est quoi en dessous? C'est les réverbères, en fait, quand on voit aussi?
Oui, parce que c'est un étang que les agriculteurs, ils ont fait pour récolter l'eau de pluie pour les saisons sèches. Okay. Et ça se reflète sur l'étang, les lumières. Et la vidéo a été tournée à 15 km à peu près de Vic-Fezensac.
D'accord. Et alors, c'était il y a combien de temps, ça?
Oh, en 2010, dans les années 2010. À peu près.
C'est vrai qu'on voit quand même quelque chose derrière. On a la sensation que quand ça s'éteint, là, il y a une structure derrière. Bon, c'est très étonnant. En tout cas, les vidéos sont incroyables. Il faudrait les faire analyser. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait envoyer ça à un labo cinéma, ou en tout cas images, et qui pourrait. En tout cas, merci de nous les avoir envoyés. Je ne vous promets rien, mais on va essayer de voir si on ne peut pas les faire analyser quand même, parce que ce serait vachement bien si on peut trouver un spécialiste de l'image qui pourrait effectivement, image par image. Déjà, nous, on va regarder demain, Mathis, tu le notes, on va regarder demain image par image, savoir, parce qu'en régie, c'est plus simple que là en direct, pour savoir ce qui pouvait se cacher derrière. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Waïd. C'est un très joli témoignage et merci pour ces vidéos. À très bientôt.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
Merci d'être avec nous, d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Je vous invite à aller découvrir btlv.fr parce qu'il y a le clair, bien sûr, le lundi et le mercredi. Mais il y a surtout le crypté avec des centaines d'heures d'émissions qui sont à votre disposition. Il y a 4 thématiques, enfin 3 plus tout BTLV. Voilà, vous cliquez et vous avez tout à votre disposition. Il y a les articles, il y a les vidéos, il y a tout ce que vous voulez. Mais pour cela, il faut être abonné à BTLV, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez tout à votre disposition et en plus, en ce moment, jusqu'à la fin du mois, on vous offre pour un abo à tarif réduit un documentaire, celui du Da Vinci Code. Mon Tom.
Les réseaux, évidemment.
Bah, bien évidemment.
Alors, en témoignage, déjà, il y a Ayato69 qui se demande c'est vrai que depuis quelques années, on a l'impression que les apparitions ont augmenté. C'est un petit commentaire.
Non, voilà, je pense que depuis quelques années, la parole s'est libérée et puis il y a de plus en plus de canaux pour en parler. C'est-à-dire qu'il y a tous les réseaux
peut-être.
Sociaux quand même.
C'est plutôt
donc, voilà,
ça.
Donc c'est ça.
Anne Thierry. C'est ça, ou elle a très jeune.
Oui, c'est une vieille abonnée de BTLV. Pas par l'âge, hein, mais par sa fidélité.
Non, je crois. Oui, c'est ça, c'est Anne Thierry qui nous raconte. C'est qu'elle mentionnait quelqu'un d'autre en fait dans le chat. C'est pour ça qu'au niveau des prénoms, je m'embrouille. C'était un soir, alors que j'étais en voiture avec mon père pour aller chercher ma soeur à la gare, j'ai vu la Vierge Marie, comme si elle s'était matérialisée. Elle était très lumineuse, elle s'est déplacée sur plusieurs dizaines de mètres, c'était magnifique.
D'accord, ok. Il arrive beaucoup de choses à Anne Thierry. Ah, oui. Là aussi, c'est pareil, dans la sensation que il y a certaines personnes à qui il arrive beaucoup, beaucoup de choses, qui sont ouvertes et puis qui sont réceptifs. C'est toujours aussi intéressant de dire. Il y a beaucoup de gens qui disent « j'ai jamais vu un ovni », mais les gens ne regardent pas le ciel aussi. Bien sûr que le nombre de gens qui ont la tête baissée ou sur leur smartphone, ouais. au lieu de regarder le ciel.
Sinon, il y a aussi José, qui est du Canada, qui a vu avec son chat, très important le chat, qui a vu une lumière très très lumineuse chez elle. Et par la suite, elle a fait un rêve lucide où elle revoit cette boule lumineuse, mais quand elle voulait se réveiller, elle ne pouvait pas bouger.
Paralysie du sommeil.
Paralysie du sommeil, plus rêve lucide, plus apparition d'une lumière très lumineuse. Enfin, il y a trois...
Ah mais là, elle avait mis le budget.
Temps.
Là, elle avait mis le budget.
C'est le combo gagnant, quoi. Jackpot. Hein.
Ça, là, c'est le loto. Hein. C'est l'euro million.
La paralysie du sommeil s'accompagne souvent d'hallucinations aussi.
Ouais. Ah, c'est terrible. J'en faisais quand j'étais petit.
Ah ouais.
Je faisais des cauchemars et en fait, j'entendais comme une sorte de tribu africaine derrière moi.
Alors, demain, j'ai un canapé. Tu pourras t'allonger, je te prends pas cher.
Ok.
Tu pourras me raconter l'histoire.
Je faisais ce cauchemar tous les jours, toutes les nuits.
Ouais.
Et quand je me réveillais, il y avait toujours cette musique qui continuait.
Et après, ça donne Tom Annan.
Voilà.
Oui, qu'est-ce que je vous dis.
Mais c'était bizarre. Et à la fin, ça
on finit chez BTLV.
Et on finit chez BTLV. Ah ouais. On finit
à 23 ans.
BTLV. Bon, avant de retrouver Willy, qui va nous parler d'un objet volant également qu'il a vu dans le Pas-de-Calais, on va regarder ce qui attend regardez la vidéo qu'on vous a mis, les futurs astronautes sur la Lune. Il y a une entreprise qui travaille pour la NASA, en tout cas la NASA a validé la recherche sur une nouvelle moto qui va aller sur la Lune. Parce que vous savez que c'est horriblement cher le kilo à emporter dans l'espace. Donc en fait, c'est une moto ultra méga légère. On se souvient dans les années 70 des mecs en buggy, hein, vous vous rappelez, quand ils étaient sur la Lune, ils faisaient de la...
Rover.
Voilà, c'était Rover. Incroyable. Ça faisait fantasmer. Mais là, c'est une moto qui devrait aller sur la Lune. En tout cas, la NASA n'a pas fermé la porte à cette entreprise.
Je pense que c'est pour Tom Cruise.
Oui, c'est ça.
Il va tout tourner. À fait Tom Cruise, tu sais, dans un prochain film, faire de la moto sur la Lune.
Bah, déjà, il est allé, parce que les Russes ont tourné, là, t'as vu, sur la Lune, dans l'espace, sur l'ISS, là, il y a une quinzaine de jours, avant les Américains, et c'est Tom Cruise qui va s'y coller maintenant. Peut-être qu'un jour, ils arriveront effectivement à faire un vrai film sur la Lune. En tout cas, vous voulez avoir une vision plus grande du monde, bienvenue sur BTLV.
Nos cellules véhiculent de l'information intrinsèque, c'est-à-dire dans la matière première, nos organes. Il y a donc un monde vivant à l'intérieur de nous qui va exister au travers de nos histoires, nos programmes karmiques, c'est-à-dire l'histoire de l'âme, mais aussi l'histoire des temps, c'est-à-dire l'histoire de l'existence en général, de l'humanité.
Mais effectivement, les rêves sont aussi porteurs de plein de choses de nous. Ils viennent nous reprogrammer, nous remettre initialisés par rapport à notre source.
Je pense, oui, qu'on est forcément des êtres spirituels. On ne le sait pas, en fait, tant qu'on n'a pas été confronté à la mort.
Et une des clés a été vraiment de dire, en fait, je peux être qui je suis sur Terre, ma pleine énergie ou essence, et incarner qui je suis sur Terre.
Et c'est pas ouvrir pour ouvrir, mais c'est ouvrir les champs spirituels pour harmoniser ce qui se passe sur le plan subtil de notre être, sur le plan informationnel, sur le plan vibratoire, sur le plan des mémoires.
Toutes ces médecines, je dirais, naturelles que j'ai étudiées peuvent apporter beaucoup de choses à nos patients.
Quand on reçoit des signes, c'est un moment d'extase, de joie, ça donne une force inouïe.
Parce qu'en les écoutant, en leur parlant, en étant avec eux, vous allez ressentir leurs vibrations et vous allez ouvrir votre champ du possible. Et ces expériences-là vont vous faire changer votre voie, vos directions.
C'est ça, BTLV. Vous pouvez tout retrouver sur btlv.fr, une vision... Voilà, à 360 du monde et de l'univers. Alors, je voudrais faire un coucou à Z Chino qui dit « BTLV toujours aussi sceptique et arrogant face à certains témoignages, c'est bien dommage ». Alors, Z Chino, juste, ça m'énerve, ça. Ça fait 9 ans que je suis sur ces terrains. Vous croyez que j'aurais mis tout l'argent que j'avais dans cette chaîne si j'étais sceptique et arrogant? On est juste là pour essayer de comprendre. Le seul truc, c'est qu'on ne peut pas tout avaler et tout dire oui. C'est-à-dire qu'on est là, on n'a aucune réponse. On est juste là en questionnement avec...
Ça y est, voilà. Vous l'avez énervé.
Mais non, mais ça me foutu. Fatigue, ça me fatigue.
Ouais, c'est Bob, et puis, tout va bien.
Putain, il y a plein de chaînes. Qu'est-ce que vous êtes tout... là? Ça me fatigue.
Non, Bob,
mais non, mais ça me... Zetchino, il va juste comprendre comment on fonctionne.
Mais oui, mais... Non,
il faut qu'on soit un petit peu comment on appelle ça, un peu...
Non, je suis plus indulgent, c'est fini.
Non, on est impartial, mais en même temps on essaie de raccrocher aussi des choses à la rationalité.
C'est on le cas. Dit, BTLV c'est pas une chaîne où on vient, c'est pas une chapelle où on vient prier, c'est un lieu de questionnement, de réflexion. Et déjà vous avez une chaîne qui est le seul média en France reconnu par l'État sur le mystère inexpliqué, avec des cartes de presse accréditées, qui ose se poser ces questions. Alors qu'est-ce que vous m'emmerdez avec ça?
Voilà, c'était Bob Bellon.
Oh, sans déconner, ça m'énerve, ça, tu peux pas savoir. Bon, puis il y a tellement d'autres chaînes où on va vous dire que tous les ovnis sont tous là.
Il reste quand même, hein, parce que là, tout ce que tu lui as dit, là...
Non, mais il m'a énervé. Bon, allez, BTLV, on a Willy qui est avec nous. Bonsoir Willy.
Salut Bob.
Ravi de vous accueillir Willy sur BTLV. Vous êtes toujours dans le Pas-de-Calais, vous?
Toujours.
D'accord. Alors dites-moi, vous avez vu un engin, visiblement, c'était il y a combien de temps?
Alors, c'était le 9 septembre 2018.
Ouais.
Et je ne sais pas si vous avez la vidéo.
Alors, on a une vidéo, effectivement, on va la regarder. Encore une fois, les vidéos, c'est très compliqué, on envoie la vidéo, on va regarder. Mais là, effectivement, ça m'a troublé, parce que il y a trois engins, enfin trois choses dans le ciel qui semblent refléter de la lumière. Donc c'est solide. Si ça reflète de la lumière, c'est solide, fatalement. Et il y en a trois. Un, deux, trois. Un à droite, un au milieu, un à gauche. Et alors ça, Ça semble pas être des avions, ça c'est sûr.
Ah non, non.
Ça
non,
c'est
non.
sûr.
Non, c'est pas mécanique. En plus, ce qui fait. Qui les fait bouger, c'est le vent ouais. qui les bouge, tu vois. Et c'est pour ça. Alors, c'est des objets manifestement. Alors, soit métalliques, enfin métalliques.
Si, parce que.
En aluminium.
En aluminium, parce que oui, il y a.
De réfléchir.
Voilà, c'est ça.
Ça c'est sûr. Après, il faudra regarder s'il existe des cerfs-volants, des choses comme ça qui sont. Tu sais, maintenant, il existe des cerfs-volants énormes, là, qu'on lâche dans des grandes fêtes. Et quand ils s'échappent. Bah, ça peut donner quelque chose comme ça. Hein.
Là, c'est les trois mêmes cerfs-volants, c'est quand même bizarre quand même. Donc, ça me paraît complètement bizarre. Alors, c'était en septembre 2018. En plus, encore une fois, là, ça paraît très haut en plus. Hein, donc, quand même, c'est haut dans le ciel.
C'est pas lumineux, ça, c'est sûr. Enfin, ça émet pas de lumière. C'est vraiment le reflet du soleil.
Hein.
Ouais, ça réfléchit la lumière du soleil, c'est tout.
Donc, alors, j'imagine que vous avez été surpris quand vous avez vu ça, non?
Bah oui, quand même.
Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller regarder le ciel à ce moment-là? Parce que c'est ça qui est étonnant. On revoit, ça clignote en plus de temps en temps. Soit ça clignote, soit c'est vraiment les rayons du soleil qui font...
Le reflet.
Là, ouais, c'est dans les nuages.
Ça pivote sur soi-même.
Je pense que c'est les reflets du soleil qui font ça.
Ouais. On a la sensation que c'est un truc qui tourne. Donc,
C'est ce qu'on a observé aussi. C'est que... Alors, je vous ai fait un témoignage écrit quand je vous ai envoyé la vidéo. Et depuis, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec mon père.
Oui.
Et bon, il y a quelque chose qui diffère. C'est que, en fait, faut savoir plusieurs choses. C'est que mon père a son PPL, la licence de pilote privé, la licence du LM.
Ouais.
Et à la même période, en septembre, généralement, on a un meeting aérien à l'aérodrome de Bénifontaine. Qui se trouve à 5 km en voiture et à 2 km à vol d'oiseau.
Et vous pensez qu'il y a un rapport avec ça?
Non, justement. Alors, pour vous expliquer, on a un meeting généralement en début septembre. Ouais. Et cette année-là, il n'y en avait pas à cause des attentats du 23 mai 2018 de Carcassonne et Trèbes. Pour une question de sécurité, justement, au niveau des gens. Donc, on est sûr, justement... Que
ça ne peut pas être un objet appartenant à cet aérodrome, quoi, ou en tout cas, ce club de trucs.
Voilà, c'est ça. Et alors, l'observation a été faite au moment où je filme, il est 10h33. Donc, l'observation a été faite un peu avant. Et je vais vous expliquer l'histoire. Mon père est dans le jardin à ce moment-là. Et il est en train de tailler ses rosiers, il me semble. Et il entend le bruit d'un gyrocoptère. Et pour lui, comme il connaît tout le monde là-bas, pour lui c'est un petit ami qui est parti faire un vol, sauf qu'il le cherche du regard et il trouve pas le gyro. Et à un moment, il le cherche du regard, il lève les yeux au ciel, et ce qu'il voit en fait, c'est pour lui, c'est une formation de wingsuit au-dessus de lui.
Il faut peut-être expliquer parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. En fait, c'est des gens qui, alors au lieu de sauter en parachute, qui ont des combinaisons un peu à la Batman, on va faire très très schématique, et qui se lancent en fait des hauteurs et qui volent un peu comme des chauves-souris un peu, voilà, qui arrivent à très très vite.
Ouais, mais ça va très vite.
Oui, ça. Par contre, ça va une
grosse folle. Ils vont pas très vite ce qu'on voit là.
Non, là, ça va pas très
vite. Non. Et c'est ça, c'est que lui, au moment de l'observation, en fait, c'est stationnaire et ça tourne. Et au moment où il m'appelle pour venir voir ce qu'il y a dans le ciel, les objets se séparent. Et moi, je me dépêche, je regarde dans le ciel et je vois en fait trois formes lumineuses, qui brillent justement par rapport au soleil, qui se séparent. Et
c'est-à-dire qu'au départ, c'est qu'un seul et même objet, en fait, c'est ça. Et ça
ils sont super... Moi, ce que je vois, en fait, moi, ils sont déjà séparés. Et mon père, lui, ce qu'il voit, en fait, c'est un genre de formation.
D'accord.
Et ils sont l'un au-dessus de l'autre.
D'accord.
Et lui, il voit, en fait, la séparation des trois objets qui, apparemment, n'étaient pas... qui formaient pas un seul objet. Et lui, il les voit se séparer.
D'accord.
Et justement, il voit les trois objets qui tournent. Oui. Et pour lui, en dessous, ça fait comme des vagues.
Et alors, quelle est son explication à lui?
Ah bah lui, il n'a pas d'explication. Justement, j'ai eu l'occasion de filmer. Et une fois la vidéo terminée, en fait, il est parti justement à l'aérodrome.
Oui, parce que c'est ça. C'était pour se renseigner, parce que comme l'aérodrome n'est pas loin, j'allais vous poser la question. Est-ce que l'un d'entre vous est parti là-bas? Oui.
Mon père est tout de suite parti voir justement avec la vidéo, ouais, pour demander ce que c'était. Il est même tombé sur le pilote du Giro, qui, ouais, est un ami à lui, et, ouais, lui non plus n'a rien vu, et personne ne sait ce que c'est.
D'accord.
Ça, c'est intéressant, si déjà des spécialistes, ouais, d'aviation ne savent pas ce que c'est, enfin, n'arrivent pas à identifier ces objets-là comme ça. Après, bon, moi j'ai envie de dire, il faut déjà vérifier que du côté des ballons-sondes, du côté des gros cerfs-volants, parce que des cerfs-volants aluminium, aux États-Unis, on en a vu beaucoup qui ont été pris pour des ovnis. Mm. Donc voilà. Bon, après, je ne sais pas. Enfin, vérifier, voilà, tous ces types d'objets qui sont un peu. Parce que là, ils bougent avec le vent, ils tournent, oui, sur eux-mêmes.
Ça a l'air donc léger, si ça,
ça
tourne avec le vent.
Très léger.
Ça a l'air léger. Mm. Alors, juste une chose, justement, les gens de l'aérodrome, ils ont l'habitude de voir le ciel. À la distance à laquelle, en regardant la vidéo, ils se sont pas dit. Ils ont estimé la taille de ces engins ou pas?
Bah, ça mesure entre 5 et 10 mètres.
5 et 10 mètres? Ah ouais?
Ouais.
Donc voilà, c'est gros.
Ouais,
c'est
et gros, c'était environ, ouais, 1500-2000 pieds.
Ouais, c'est ça. Donc c'est assez gros. Effectivement, alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression que ça tourne, quoi, tout
ça
le temps. Donc,
ah oui, oui.
Ouais.
Nous ce qu'on a vu, en fait, par rapport à la vidéo, et nous, ce qu'on ressent, en fait, quand on regarde à l'œil nu, ça tourne vraiment. Et une chose aussi, c'est ce qu'on n'entend pas, justement, dans la vidéo, c'est qu'à 26 secondes, l'objet de gauche pivote. Et...
On peut remettre les images, s'il te plaît, Mathis, quand même, pour qu'on les regarde, ces objets. Oui, vous pouvez vous abonner, hein, ça c'est sûr, mais on va regarder l'image, parce qu'effectivement, ça paraît quand même assez...
Ouais,
assez
et donc,
assez,
à 26 secondes, l'objet pivote, et bizarrement, mon téléphone essaie de faire le point sur l'image, ouais, et on voit un trou noir au milieu apparaître. Et nous, à l'œil nu, parce que moi, en fait, je l'ai en fait dans le téléphone, mais je ne regarde pas le téléphone, je regarde à l'œil nu.
Ouais.
Et ce que je dis à la fin de la vidéo, une fois que j'ai fini, et on est quatre témoins, il y a mes parents et mon fils qui avaient 6 ans à l'époque,
ouais,
ça fait un donut.
Alors ça, c'est marrant parce que j'avais écrit quelques articles.
Je pense l'avoir vu même à la vitesse réelle, ouais, le donut. Parce qu'à un moment, effectivement, ça a fait un effet un peu circulaire. Alors après, c'est, à mon avis, c'est un jeu de lumière.
Mais... Il y a eu plein de donuts, hein, qui ont été observés, notamment en Asie. J'avais fait quelques articles dessus. Effectivement. Ah oui, oui. Alors on l'a vu. Même sur celui de gauche, à un moment donné, on a vu, il y a un trou, il y a un truc au milieu. Donc,
oui, effectivement. C'est celui de gauche.
Ouais, c'est ça.
Et ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, mon téléphone ne capte pas et il essaie de faire le point.
Ouais. Oh, on l'a vu là, à nouveau. Donc bah là, regarde, quand on a figé l'image, effectivement, c'est vrai que le tour est blanc. Et on a l'impression qu'il y a un truc au milieu plus foncé. Donc c'est étonnant, en tout cas. Là, encore une fois, ce serait bien qu'on puisse aller voir dans l'image, zoomer. Demain, mon Mathis, tu le notes, on va aller voir, on va avoir un peu de boulot pour regarder ces images, parce qu'on va pouvoir aller un peu dans l'image. Alors souvent, quand c'est au téléphone, plus on grossit, moins c'est précis, hein, mais on essaiera de voir. Donc, aucune explication à ce phénomène, si je comprends bien, Willy.
Par rapport à l'aérodrome, on a aucune info par rapport à ça. Et il faut savoir aussi que pendant un moment, on avait le droit de faire de l'avion radiocommandé,
ouais,
à cet endroit-là. Et ça a été très réglementé. Et en fait, donc, tout ce qui est cerf-volant et avion radiocommandé, c'est devenu interdit.
D'accord. Ok. C'est vraiment. On a eu deux vidéos ce soir, très très étonnantes quand même. En tout cas, et merci de nous les avoir partagées parce que effectivement, ce sont des choses sur lesquelles on peut essayer de travailler quand même. Hein, parce que en plus, là, pour une fois, la qualité est assez bonne. Donc là la qualité est assez bonne. Écoutez, merci Willy en tout cas de nous avoir permis de découvrir ces vidéos et de nous avoir raconté cette histoire. On vous souhaite une belle soirée dans le Pas-de-Calais et n'hésitez pas à faire comme Willy si vous voulez témoigner 0 86 22 21 20 ou redaction@btlv.fr et si vous avez des images, on est preneur.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20 01 86 22 21 20.
Les ovnis, justement, j'ai reçu Patrice Javel de Villeneuve-sur-Lot, OVNI, des repas UFO de Villeneuve-sur-Lot et OVNI Aquitaine. On a posé cette question à Patrice, les ovnis, comment ça fonctionne? Écoutez ce qu'il dit.
Il y a plusieurs façons d'expliquer le fonctionnement d'un ovni. D'abord, on va parler des voyages dans l'univers. On n'a aucun support, on a par un système de réaction, de propulsion. On lance une sonde dans l'espace avec sa propre vitesse et elle prend appui sur d'autres planètes pour se catapulter et prendre de la vitesse. Les ovnis n'utilisent pas cette technologie-là, ils ont une technologie beaucoup plus pointue. On pourrait très bien imaginer que les ovnis voyagent dans l'univers en courbant l'espace, c'est-à-dire plier l'univers, créer une vague sur laquelle ils surferaient. Imaginez très bien un moyen que j'ai imaginé moi, c'est que vous créez un trou noir devant, devant le vaisseau, vous créez un trou noir, donc vous créez une masse, et cette propre masse attire le vaisseau vers l'avant.
D'accord.
Et il avance, il ne le rattrape jamais parce que le trou noir est
toujours
projeté devant. Et attire le vaisseau qui, lui, accélère sans arrêt et va à la vitesse que vous voulez bien lui donner.
Les ovnis, comment ça fonctionne avec Patrice Javel? C'est disponible dès maintenant sur btlv.fr si, bien sûr, vous décidez de nous rejoindre. On arrive au terme de cette libre antenne. Il est 20h30. Je voulais vous signaler que mercredi, c'est un spécial Halloween qui vous attend. Regardez, mercredi soir, ce sera l'occasion pour vous de frissonner de plaisir avec des histoires qui seront racontées notamment par Valérie Lombard, qui a écrit un bouquin savoureux, et puis par tous les journalistes de la rédaction de BTLV. Merci Jocelyn d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, Pierre-Alexis notamment, Mathis, Tom. Il y a eu beaucoup de monde ce soir sur les réseaux sociaux. Merci à vous de partager cette émission. Le replay est à votre disposition et je vous assure, allez faire un tour sur btlv.fr.
Cette saison encore, BTLV vous promet des interviews inédites. Des émissions rares, des magazines exclusifs, des documentaires exceptionnels. Pourquoi chercher ailleurs? BTLV vous apporte toutes les réponses.
Analyser, décrypter, comprendre, telle est ma devise.
Là où les autres s'arrêtent, BTLV commence. BTLV, le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué.